C'est qui ou quoi sur Radio Duo? Roman, BD, documentaire, livre pour enfants ou guide de voyage, c'est qui ou quoi sur Radio Duo, une demi-heure pour vous parler de livres à lire, tout à l'heure avant d'aller se coucher ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Ce soir, pour la huitième de la saison 2 de Qui ou quoi, la dernière de l'année 2018, je ne suis pas seul. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Axel.
Et quand Vincent est là, c'est le cercle de Qui ou quoi. Alors, petit rappel du fonctionnement du cercle de Qui ou quoi. Comme nous ne sommes que deux pour l'instant, qui sait de quoi l'avenir sera fait. Nous choisissons chacun notre tour un livre et nous en parlons dans l'émission. Niveau fréquence, Vincent revient une fois par mois et c'est comme ça donc à chaque fois qu'il vient. Le dernier cercle en date, c'est Vincent qui avait choisi et nous vous avions parlé de l'auteur de bande dessinée suisse Frédéric Peters. Cette fois, c'est moi et j'ai choisi le comics Ultimate, tome 1 de Brian Hitch et Mark Millar, paru chez Panini Comics dans la collection Marvel Deluxe. Et ce choix, il est loin d'être anodin. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je lis pas mal de BD, mais j'avoue avoir grandi avec de la BD franco-belge et des mangas. Très peu de comics. Mais j'ai dans mon entourage un fan de comics. Enfin, il est ma référence à moi concernant les super-héros. Et ce fan, c'est Vincent, qui est avec nous ce soir. Il y a maintenant plus de 10 ans, j'ai lu le fameux Ultimate tome 1 et j'ai toujours eu envie que Vincent le lise et qu'on échange dessus. Tout vient à point, à qui sait attendre, le cercle de qui ou quoi est né sur Radio Duo à la rentrée 2018 et nous allons enfin pouvoir confronter nos avis sur cette BD. En plus, il n'aura échappé à personne qu'aujourd'hui les super-héros ont la cote. Films, BD, produits dérivés, etc. Il n'aura échappé à aucun de nos auditeurs non plus que Vincent et moi sommes de gros lecteurs de BD. Nous ne pouvions pas ne pas apporter notre pierre à l'édifice. L'envie de parler de super-héros était définitivement trop forte et c'est donc ce soir dans Qui ou quoi. Ultimate, Civil War et autres Mark Millar vous attendent au sommaire de l'émission. C'est parti. Alors, commençons par le commencement, c'est moi qui vais commencer. Donc, on commence par Ultimate, tome 1 de Mark Millar et Brian Hitch. Alors, cette bande dessinée, c'est l'histoire de plusieurs super-héros. En l'occurrence, Captain America, Iron Man, Thor, Hulk, La Guêpe, Giant Man et Œil de Faucon, qui vont allier leurs forces pour combattre un ennemi commun. Un grand classique du super-héros, l'équipe de super-héros qui va tout défoncer. Au cinéma et aux States en VO, ça s'appelle Avengers. Dans les années 70 en France, ça s'appelait Les Vengeurs. Et Ultimate, c'est en fait un peu un reboot de tout ça, pour utiliser un vocabulaire de cinéma. Ce tome 1, il recueille donc plusieurs aventures des Ultimates. Impossible de vous parler d'Ultimate non plus sans vous parler de son scénariste Mark Millar, qui est un des grands noms du scénario comics des dernières décennies. C'est un scénariste anglais, écossais plus précisément, qui a commencé à la fin des années 90 et qui a très rapidement réussi à se faire un nom sur des séries connues genre Superman chez DC Comics et puis aussi après chez Marvel au début des années 2000. Et puis il a participé d'ailleurs au renouveau de cette maison de Marvel avec des titres comme Ultimate justement, avec du Spider-Man, du X-Men, etc. Sa notoriété a grandi avec des titres plus tard comme Civil War, dont on va vous parler un peu plus tard. Et puis le cinéma est arrivé et nombre de ses titres se sont retrouvés adaptés sur le grand écran. Genre Kick-Ass c'est lui, Wanted c'est lui, Kingsman c'est lui. Même si vous n'êtes pas fan de comics, l'œuvre de Mark Millar aujourd'hui n'est pas passée loin de vous. Voilà, le cadre est posé. Parlons de cet Ultimate tome 1. Vincent, tu commences ?
Eh oui, mon cher Axel. Alors, quand tu m'as dit que pour le prochain cercle de qui ou quoi, nous allions parler de Marc Millar, j'ai eu un sentiment mitigé. D'un côté, l'idée me séduisait car en tant qu'ancien fan de comics, ça me plaisait de replonger dans l'univers marvelien. D'un autre côté, j'étais vaguement au courant des grandes libertés dont Marc Millar avait fait preuve. Liberté qui, pour un vieux fan de comics, me semblait par certains côtés être une hérésie. Moi qui, pendant plus de 15 ans, ai été imprégné de cet univers où des êtres dotés de super-pouvoirs se combattent pour des raisons qui bien souvent dépassent l'entendement humain, bah là, j'étais quelque peu désarçonné. Non mais, rendez-vous compte, dans les deux recueils scénarisés par Marc Millar que j'ai lus, à savoir le tome 1 de Ultimates, avec un S, et Civil War, Marc Millar transforme Thor en hippie. Nick Fury a changé de couleur de peau. Captain America devient hors-la-loi. Tout cela me semblait super fun. Je me suis dit, waouh, j'ai trop envie de lire Marc Millar. Sauf qu'en tant qu'ancien fan, je suis resté sur ma faim et qu'au final, ce qui aurait pu être un cocktail d'aventures géniales s'avère être à mes yeux un gros gloubi-boulga quelque peu indigeste dont on aurait oublié la date de péremption.
Donc d'accord, et en fait, Ultimate, là, t'en parles, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ce terme Ultimate, qu'est-ce que ça représente en fait?
Alors, ce sont, avant toute chose, je vais repréciser effectivement les séries Ultimate. En gros, moi ce que j'ai compris, l'éditeur Marvel, au début des années 2000, décide de remettre à jour certains de ses super-héros. Ben oui, au bout d'un moment, ça finit par lasser tous ces super-héros en collant qui ne vieillissent jamais, tiraillés entre un bien et un mal. Un coup de balai, hop, et on reprend tout ce qui s'est fait depuis une soixantaine d'années pour le mettre à une sauce beaucoup plus fashion. Vous me direz, pourquoi pas? Car l'idée, c'est d'attirer de nouveaux lecteurs tout en conservant les anciens.
Et ils ont réussi leur coup, là, pour le coup, Marvel et ces fameux Ultimates.
Eh ben, on va dire oui, Axel. Il faut reconnaître une chose. Les séries Ultimates ont été un carton aux States. Marc Millar est et reste une très bonne affaire pour la maison Marvel. L'homme peut se targuer d'avoir écoulé des millions de comics. Moi, face à ces succès largement combinés avec les différentes adaptations cinématographiques de l'univers marvelien, je suis resté très en retrait. Bon, je dois avouer que ma passion pour les super-héros s'est arrêtée vers la fin des années 90.
Ok, et donc, alors, qu'est-ce que t'en as pensé de ce Ultimate?
Bon, moi, je vais pas cacher, hein. Comment vais-je expliquer ma déception par rapport au tome 1 d'Ultimates que tu m'as prêté? Alors, le mieux, c'est que je vous fasse une comparaison entre Marc Millar et Stan Lee. Stan Lee qui est décédé d'ailleurs cette année.
Et Stan Lee qui est le scénariste emblématique de créateur de beaucoup
tout
de super-héros.
Et oui, c'est lui qui est à l'origine de l'âge d'or des super-héros de la Marvel. Il a créé avec notamment des dessinateurs comme Jack Kirby, Steve Ditko, John Buscema, etc. Spider-Man, Hulk, les Vengeurs, les X-Men, le Surfeur d'Argent, et j'en passe.
On va pas rester là toute la nuit.
Non. Donc, dans mon intro, moi je vous disais que Marc Millar avait transformé Thor, le dieu du tonnerre, inspiré de la mythologie nordique, en hippie. À première vue, je me suis dit que l'idée était séduisante. Thor est devenu sensible à la nature, il va sauver le monde du réchauffement climatique. Thor, il a un marteau et quand il est chaud, il fait péter des éclairs avec de la pluie. À la base, le Thor que je connais, imaginé par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Jack Kirby, vit à Asgard, la patrie des dieux nordiques. Pour faire bref, il se dispute avec son papa, Odin. Ce dernier, pour apprendre l'humilité à son fils, l'envoie sur Terre et le réincarne en un être humain infirme. C'est quand il retrouve son marteau qu'il redevient un dieu. Le Thor, imaginé par Marc Millar, est un mec très critique envers les élites. Limite, je me suis presque dit, mon Dieu, c'est un horrible zadiste. Malheureusement, avec Mark Millar, c'est allé un peu trop loin. Thor, l'espace de quelques cases, ne met pas longtemps à succomber au charme de Tony Stark. Tony Stark, c'est le milliardaire alcoolique. Il l'invite et voilà Thor, le hippie, devenu un brave gars, prêt par amitié à combattre des vilains. Génial, tout est super crédible. Thor apparaît pour moi de facto comme un être très influençable qui met de côté avec une grande facilité le fait que la fortune de Stark provient de la vente d'armes. Stark, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est Iron Man. Et oui, Stark, entre deux verres d'alcool, fort, adore se glisser dans son armure. Devenu Iron Man, Stark peut voler et balancer des rayons dans tous les sens. Bref, Stark, c'est le vendeur d'armes, super cool. Merci Mark Millar d'avoir gardé cet aspect merveilleux du personnage. Alors, avec celle des surprises dans ce Ultimate tome 1, pour le vieux fan que je suis, j'en ai eu pas mal. Par exemple, je vais arriver sur Captain America. L'incarnation de toutes les valeurs combatives et patriotiques de l'Amérique. Le premier Captain America, rappelons-le, est né en 1940. Il est créé par Jack Kirby et Joe Simon. Pour info, en 1940, l'éditeur ne s'appelle pas encore Marvel Comics, mais Tim Lee Comics. Son propriétaire, Martin Goodman, comme nos deux créateurs, est juif. Ils sont donc particulièrement touchés par ce qui se passe en Europe à cette époque-là. La création de Captain America n'a donc rien à voir avec le hasard. Il est là pour combattre l'Allemagne nazie. Le titre déclinera fortement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Jack Kirby, aidé de Stan Lee au scénario, décide de ressusciter en 1963, en pleine guerre du Vietnam, le valeureux super soldat avec son bouclier aux couleurs de l'Oncle Sam. Dans cette version des années 60, l'auteur nous explique que 20 ans auparavant, Captain America et Steve Rogers, un jeune homme chétif qui rêve de s'engager pour servir son pays. Hélas, l'oncle Sam ne veut pas de lui. Sa constitution est jugée trop fragile pour qu'il puisse être incorporé dans l'armée. Par bonheur, il est choisi parmi des centaines de volontaires pour devenir le cobaye d'une expérience. On lui fait avaler un super sérum. Il devient ainsi le nouveau champion du monde, libre, entre guillemets, un symbole vivant, la gloire de l'Amérique, Captain America. Captain America, aidé de Bucky, son compagnon, qui lui aussi a des capacités hors du commun, détruisent plusieurs installations nazies. Au cours d'une mission, Captain America disparaît dans les eaux glaciales de l'océan Arctique. Grâce au sérum du super soldat, il survit en état d'hibernation. C'est Namor, le prince des mers, qui le libère, puis le rebalance dans l'océan. Captain America dérive pour être finalement adopté par les Vengeurs, une équipe de super-héros créée pour l'occasion. Dans la version Mark Millar, peu de changements à noter, mis à part que le Captain America de 1940 se réveille une soixantaine d'années plus tard au sein du SHIELD, une organisation type CIA. Mark Millar, pour faire remarquer que Captain America a changé d'époque, montre Bucky et une fiancée de Captain America en personne âgée. Enfin, quelques éléments intéressants, me suis-je dit. Malheureusement, mon enthousiasme est vite retombé. Captain America évolue dans le 21e siècle comme un poisson dans l'eau. Les technologies n'ont aucun secret pour lui. En comparaison, Stanley et Kirby, malgré de très grosses ficelles, abordent l'anachronisme de Captain America en une planche avec beaucoup plus de réalisme, je trouve. Par exemple, Captain America marque un certain étonnement. Il constate que le design des voitures a changé. Les filles ont des tenues et des coiffures différentes par rapport à son époque. Il voit un immeuble avec des drapeaux de plein de pays et ne s'en rend même pas compte que c'est le bâtiment des Nations Unies. C'est certes anecdotique, mais quand même beaucoup plus intelligent. Et puis, il n'y a pas vraiment d'antécédent. Stan Lee s'appuie sur peu de choses et innove vraiment, contrairement à Mark Millar. Le concept Hibernatus pour Captain America, c'est Stan Lee. Je ne m'attarderai pas sur toutes les mises à jour proposées par Mac Miller. Je pourrais parler de Hulk, d'Iron Man, de la guêpe. Bref, c'est trop long.
Ça ferait... On resterait là toute la nuit pour le coup.
Et ouais, et surtout, je sens que nos fidèles auditeurs et auditrices sont en train de changer de station. Il est donc temps, mon cher Axel, de te donner mon avis définitif sur ce Ultimates tome 1. Faut-il le lire et enchaîner avec les deux autres tomes? Parce qu'il y a trois tomes, hein, c'est ça?
Oui, oui, oui.
À part pour le dessin incroyable de Brian Hitch, moi, je ne suis pas sûr que ça vaille la peine. Mark Millar ne révolutionne pas le genre. Tout au plus, il égrène quelques idées à droite à gauche en restant très en surface. C'est triste, car il dispose de personnages qui ont des décennies d'existence, avec pour certains une réelle épaisseur psychologique. Une question que je me suis posée en lisant le tome 1 de Ultimates, c'est « Fallait-il vraiment reprendre tout à zéro en singeant Stan Lee et Kirby ?» Perso, je pense que Mark Millar aurait pu inscrire Captain America dans la continuité des autres histoires. Le propos aurait été, à mon sens, bien plus intéressant. Cap reste le même et ça, c'est réellement abusé quand on connaît les conséquences psychologiques dévastatrices d'une guerre sur un être humain. Bon, rendez-vous dans une soixantaine d'années. Je pense qu'il y aura moyen de faire beaucoup mieux que Mark Millar. Espérons que les futurs scénaristes auront une fibre un peu plus sociale et surtout qu'ils seront un peu plus en phase avec les problèmes de leur époque.
Ok, bah merci Vincent. C'est marrant parce que, en fait, moi je vais donner mon avis maintenant.
Oui, mais attends, j'ai pas fini.
Ah bon?
Mais oui, mais j'ai juste un petit détail, hein, juste quelques mots.
Allez, vas-y.
Très très rapide, sur Brian Hitch quand même. Donc, pour moi, celui qui a vraiment bossé dans ce Ultimates, ce n'est pas Mark Millar, c'est Brian Hitch. Brian Hitch, à qui on pourrait reprocher peut-être beaucoup stéréotyper ses personnages. En même temps, si on bosse chez Marvel, on est un peu contraint d'obéir à un cahier des charges. Les superbes héroïnes sont des top modèles et les mecs des bodybuilders accomplis. Alors si cet aspect vous insupporte, mieux vaut passer votre chemin. Axel, je vais te redonner la parole. Je sais que tu ne partages pas totalement mon avis sur Mark Millar. En même temps, ça ne m'étonne pas parce que toi, tu avais 30 ans hein, quand tu t'es mis sérieusement à lire du comics, hein, si je ne m'abuse.
Oui, mais en fait, mon avis sur Mark Millar, je vais l'aborder un peu plus tard, mais en fait, je te rejoins assez. Mais c'est plus sur la BD Ultimates, là, sur le tome 1 des Ultimates. Là, par contre, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que moi, c'est bien simple. C'est ma BD de super-héros préférée. Je trouve que le dessin est parfait, voilà. Le scénario passionnant, les péripéties, le rythme, il y a tout qui me plaît dedans. Pour moi, c'est une vraie réussite. Donc, premier élément, le dessin. Bon, ça t'intéresse, on est plutôt d'accord pour dire que le dessin, il est superbe. Bon, on est loin, loin d'une BD indé, donc c'est sûr que si les gens recherchent de la singularité graphique, c'est pas vraiment le bon endroit. Le dessin, il est réaliste, avec des mecs en collant qui volent. Mais surtout, pour moi, il est extrêmement réussi. Les cadrages, la mise en scène sont vraiment parfaites. Un truc qui m'a frappé au niveau des dessins et qui est, à mon avis, symptomatique et très bien expliqué dans la postface, c'est Mark Millar qui parle justement du dessinateur Brian Hitch en disant qu'il est trop trop fort. Bon, ce serait assez fou s'il disait qu'en fait son dessinateur est tout pourri. Mais bon, en fait, il insiste sur la première apparition de Giant Man dans la bande dessinée. Bon, Giant Man, pour ceux qui ne savent pas, c'est un super-héros qui peut devenir super grand... Il va faire, on va dire quoi, plus de 20 mètres, un truc comme ça, enfin vraiment très 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 grand. Et Mark Millar insiste sur le réalisme de cette apparition dans la BD. Et comme quoi on ressent vraiment la grandeur, et moi je trouve que c'est tout à fait vrai, que c'est exactement ça. Que quand Giant Man il apparaît dans d'autres bandes dessinées, mais souvent en fait on calcule à peine qu'il est plus grand. C'est assez, enfin ça se ressent pas quoi. Et ici en fait on le voit, cette grandeur on la ressent, parce que les décors, les cadrages, la mise en scène, tout compte pour qu'on voit cette différence. Il y a toujours un élément dans le dessin qui va nous montrer qu'il est grand. Et c'est vraiment très très fort parce qu'en plus c'est très bien exécuté. Et en fait, ben voilà, je trouve que tout, après, tous ses choix de dessin sont à l'avenant, c'est-à-dire que c'est tout réussi, quoi. Donc moi, j'aime vraiment beaucoup. Au niveau du scénario aussi, moi, je trouve ça me plaît énormément. Je trouve que le rythme est super bon. Je trouve que c'est contemplatif quand il faut. Ils prennent leur temps quand il faut. Ils, quand ils font de la baston, bah, ils y vont. Et puis, ça dure pas trop longtemps, mais en tout cas, ça y va. C'est franchement violent. C'est un petit peu badass comme j'aime, etc. Je veux pas trop en dire parce que, comme d'habitude, moi, j'aime pas trop spoiler. Et tout le truc d'ancrer les personnages dans une réalité contemporaine avec des problèmes d'adultes, des problèmes de couple, la réalité de la destruction d'un immeuble, etc. Moi, ça m'a énormément parlé, en ce sens que ce truc, le truc d'univers Ultimate, de reboot, de remettre tout à jour, pour moi, ça a complètement fonctionné sur moi. Et c'est vrai que moi...
Juste un mot, Axel, tout ça n'est pas nouveau, hein. Il y a des tas de,
oui, mais bon,
de comics par le passé qui ont abordé ces problématiques, hein.
Mais justement, moi, j'ai pas le bagage du fan de comics, j'ai pas ton bagage. J'ai un peu, moi, mon rapport au comics, c'est un rapport de petit garçon, un truc que j'ai complètement fantasmé à base des couvertures de magazines que j'ai pu entreapercevoir dans des kiosques à journaux, mélangé à des échanges d'enfants pendant la cour de récré. Donc tous les trucs fondateurs des super-héros, je les connais pas. Tout ce que t'as expliqué sur l'histoire de Captain America, tout ça. Même les Vengeurs, au final, je me suis souvenu en préparant l'émission que je sais pas qui c'est. Je les associais plus à Thor... au héros Thor, je les appelais plus à Thor qu'aux autres super-héros. C'est dire comme j'étais complètement à côté de la plaque avant de lire les Ultimates. En fait, j'avais pas ces bases-là, mais le scénario est suffisamment bien fichu en utilisant un peu des éléments très succincts pour me donner l'impression que en fait j'avais raison par rapport à mon truc fantasmé. Donc je retrouvais un peu mes billes et en plus, Mark Millar insufflait des nouveaux éléments de ma vie de tous les jours, de mon quotidien à l'époque quand je l'ai lu. Parce que c'est vrai que quand je découvre Ultimate, j'ai 30 ans, et je me retrouve avec donc une BD de super-héros, certes, mais surtout une super BD d'action et d'aventure pour adultes qui m'a donné l'impression d'être à nouveau un enfant qui s'enthousiasme pour des mecs en collant. Je me souviens l'avoir lu la première fois d'une traite sans aucune pause, et que ça faisait longtemps que je n'avais pas lu une BD aussi longue sans m'arrêter. Donc, vous l'aurez compris, et toi aussi Vincent, moi j'ai adoré sans réserve cette bande dessinée. Pour moi, si t'aimes la BD d'action et d'aventure et que t'es pas réfractaire au drapeau américain sur un slip, eh ben tu peux y aller les yeux fermés. C'est moi qui vais conclure, désolé Vincent, mais avant la première pause musicale, pour finir, moi Ultimates m'a aussi ouvert la porte à d'autres comics récents, d'autres comics de Mark Millar et plein d'autres comics. Mais justement, on en parle après la première pause, si tu veux bien.
Avec plaisir, Axel.
Ist es immer noch eingraviert? lass uns nach Hause gehen, zu dir und mir. Ich singe unsere Katastrophen, intonier Zusammenbrüche. Ich stimm in jeden Trugschluss ein. Ich singe Vokalisen zu deinen Harmonien bis zum Querreim, bis zum Schluss. Lass uns nach Hause gehen. Wir müssen alles rückwärtsgängig machen. Susay, Susay. Steig deinen Schädelberg herunter. Susay, Susay. Zurück durch Straßen und die Gassen. Susay, Susay. Der Pöbel und die Massen, sie können nach Hause gehen. Sag den Sternen Zauber ab. Auch die Magi können nach Hause gehen. Alle können nach Hause gehen. Alle.
Scène de Neubotten avec le titre Susage. On est de retour sur Radio Duo dans Qui ou Quoi, l'émission bimensuelle qui vous parle de bouquins sur le 895. On vient d'évoquer Ultimate tome 1 de Mark Millar et Brian Hitch. On va élargir un peu le débat à d'autres comics, mais surtout à ceux de Mark Millar, parce qu'au final, il est responsable de pas mal d'autres comics récents qui ont marqué les années 2000. Et en l'occurrence, l'un des plus importants que je t'ai également fait lire, Vincent, pour l'émission, c'est Civil War de Mark Millar, dessiné par Steve McNiven. Alors, Civil War par Mark Millar, c'est un crossover important de l'univers Marvel. Crossover, c'est-à-dire que plusieurs héros du monde Marvel vont se croiser. Un peu comme les Ultimates, quoi. L'histoire de Civil War, c'est la suivante. Suite à un incident lié à des super-héros, en l'occurrence des jeunes rookies super-héros, qui vont se frotter à plus fort qu'eux à côté d'une école. Et en fait, résultat de cette baston, et tous les enfants de l'école vont mourir. Suite à cet incident, donc, les autorités vont vouloir mettre en place une espèce de régulation des super-héros, histoire de contrôler ce qu'ils font. Et pour faire ça, ils veulent se baser sur un fichier dans lequel les super-héros doivent dévoiler leur vraie identité. Et c'est là que le bât blesse, parce que Iron Man, il est pour, il s'en fout, tout le monde sait qu'il est Tony Stark dans le civil, comme tu l'as dit tout à l'heure, Vincent. Mais Captain America, lui, il est contre, parce que certains super-héros ne dévoilent pas leur identité pour protéger leurs proches. Et ils ne vont tellement pas se comprendre que tous les super-héros vont choisir leur camp et se battre entre eux, avec comme point d'orgue Iron Man qui se bat contre Captain America, le fantasme de geek ultime. Alors, au premier abord, à mon sens, Vincent, Civil War présente les mêmes qualités que Ultimate. Le dessin est super réussi, le rythme il est bon, il est ancré dans la réalité, etc. Mais avec du recul, moi, je me suis rendu compte qu'il y a un truc qui cloche. c'est qu'en fait, tout ça ne repose que sur une seule idée, Captain America et Iron Man qui se mettent sur la gueule. Et en fait, Mark Millar, le responsable de cette histoire, et en fait, il tord son scénario dans tous les sens pour arriver à ses fins, quitte à dire adieu à la cohérence et à la crédibilité. Bon, on est d'accord, on est sur des gens qui volent en slip, mais bon, quand même. Et en fait, il va en faire quelque chose de très superficiel, qui fait qu'on ne garde que cette image de Captain America et Iron Man qui se battent. Et c'est le problème de tous les scénarios de Mark Millar. Il part en général d'un fantasme de geek, genre si Hulk était intelligent, si Daredevil allait en prison, ou encore et si James Bond écoutait du rap, sauf qu'il s'arrête à son idée. Il s'appuie sur des héros existants, il fout la merde, et puis en fait après il se barre. Et sauf que les histoires sur lesquelles Mark Millar s'est appuyé, elles ont des fondations, elles ont un message, un fond. C'est un peu ce que tu expliquais tout à l'heure, Vincent. Et lui, en fait, il tord l'histoire dans tous les sens pour arriver à sa fin, mais il ne pense jamais au fond. Et l'exemple parfait pour moi de ces scénarios sans fond, c'est Kick-Ass, le fameux super-héros, un petit jeune qui aime les super-héros et qui va vouloir devenir super-héros, sauf qu'en fait, il se prend branlé sur branlé dans la rue. En fait, je pense qu'il pourrait y avoir un sous-texte sur la société qui serait très intéressant, mais en fait, Mark Millar en fait juste un truc gore et fun, sans intérêt. Et bah, c'est pareil pour Civil War. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de Civil War ?
Et Civil War, c'est le deuxième recueil que tu m'as invité à lire, Axel. Alors, de nouveau, Mark Millar m'a fait l'effet d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Dès le départ, pourtant, j'ai été transporté par le dessin de McNiven. Les 7 premières planches m'ont littéralement enchanté. Ça démarre sur les chapeaux de roue, avec une jeune équipe de super abrutis. Puis vient de nouveau Captain America, qui par la volonté du grand maître Mark Millar, devient un hors-la-loi avec d'autres super-héros en s'opposant à la volonté du gouvernement des États-Unis. Finalement, cette trame et plutôt pas mal, me suis-je dit. Hélas, ô combien hélas, Mark Millar, le génie, se prend de nouveau, à mon sens, les pieds dans le tapis. Déjà, si vous ne connaissez rien à l'univers marvelien, vous risquez d'être un poil perdu. Tellement il y a de personnages qui interviennent. Dans cet album, vous n'apprendrez rien sur les origines des uns et des autres. L'histoire est menée tambour battant. Il faut que tout le monde se batte, surtout Captain America et Iron Man. Daredevil est à mon avis le super-héros qui pâtit le plus des sinistres idées de Mark Millar. Perso, à la lecture de cette deuxième œuvre de Mark Millar, je me suis dit « Stop ! Ça suffit !» J'ai eu mon compte. Bon, je n'ai pas envie de passer pour le vieux fan aigri qui serait réfractaire à tout changement, Axel. Moi, si j'ai un crossover à conseiller, en même temps, je n'en connais pas beaucoup, c'est Kingdom Come de Mark Waid et de l'immense Alex Ross, paru en 2000. Alors, attention, on passe dans une maison d'édition concurrente, DC Comics. Là, la démarche n'est pas la même et pourtant l'axe narratif me semble proche par bien des aspects. Résumons l'histoire. Dans un futur proche, les super-héros que l'on connaît sont soit décédés, soit à la retraite. Une nouvelle génération est là. Seul gros problème, c'est que ces nouveaux super-héros n'ont pas conscience qu'avoir des super-pouvoirs, c'est des responsabilités. Quand ils se battent, ils adorent en mettre plein la vue et oublient complètement qu'ils sont entourés de pauvres êtres humains apeurés. Résultat, à un moment, c'est la grosse boulette. Magog, soi-disant dans le camp des bons, éventre Atom qui libère toute son énergie radioactive. Le Kansas, l'Iowa, le Nebraska et le Missouri deviennent des déserts irradiés. Suite à cette catastrophe, Superman, qui a les tempes grisonnantes et les cheveux longs, arrive avec des potes pour remettre de l'ordre. Et devinez ce qu'ils font ? Eh bien, comme dans Civil War, ils construisent une prison. Batman, qui pour l'occasion est un vieux papy doté d'un exosquelette, refuse le principe. il s'ensuit évidemment une grosse bataille. Mark Waid, à l'inverse de Mark Miller, décide d'inscrire les héros de DC dans une continuité. Il les fait vieillir. Mark Miller lui crée un Big Bang où tout se télescope, laissant dans son sillage un grand nombre de super-héros comme des coquilles vides. Mark Millar réduit ce qui aurait pu être une excellente trame à un tournoi de personnages costumés ridicules. Donc, au final, je déconseille à qui voudrait se plonger dans le monde merveilleux des super-héros de lire du Mark Millar. Désolé, Axel.
C'est pas grave, j'ai pas d'action chez Marvel. Donc c'est pas grave, je vivrai très bien. Moi je continue de conseiller Civil War parce que bon, enfin pour la première lecture en fait, la première lecture qui est un petit peu jouissive parce que le dessin est vraiment sympa et que le rythme est bon. Mais ensuite on tombe vite dans on voit vite les limites de l'exercice, quoi. Et même si, en fait, le crossover, il est censé redonner du punch à l'univers Marvel, qui, en fait, s'encroûte régulièrement, et puis régulièrement, il se croit obligé de, justement, mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et Civil War fait partie de ces coups de pied dans la fourmilière. Alors, au final, je suis pas sûr que, sorti du fan, ça intéresse vraiment grand monde. D'autant que en France, si on veut lire Civil War, c'est édité dans des gros recueils qui reprennent l'arc principal, le truc que t'as lu, que je t'ai fait lire, et puis qui reprend en fait perso par perso, super-héros par super-héros, les conséquences que ça a pu avoir sur leur vie, quoi. Donc j'en profite pour dire là au passage que ça fait des recueils énormes qui sont sans queue ni tête et qui sont à l'image de la logique marketing de Marvel, à savoir faire acheter le plus de livres possible aux fans de super-héros.
D'ailleurs, tu parles de ces albums. Il faut dire que c'est la maison d'édition Panini.
Oui, j'allais enchaîner là-dessus. En France, c'est pas Marvel. Marvel, eux, ils ont à cœur qu'il y ait le plus de monde qui achète leurs trucs. Mais en France, c'est relayé par la maison d'édition Panini, qui fait aussi les vignettes de foot, hein, et qui, eux, en rajoutent une couche de n'importe quoi, qui fait qu'on comprend strictement rien à ce qui est édité. En plus, ils jouent sur la rareté, etc., etc. Donc un petit exemple assez rigolo et en même temps pas rigolo. Ultimate tome 1 dont on a parlé au début a deux suites directes, donc dont tu as parlé, tome 2 et tome 3. Mais il y en a encore d'autres, des suites à tout ça. Sauf que si vous voulez la lire, il faut que vous alliez dans la seconde partie du second tome du recueil Ultimate New Avenger, qui ne suit pas la même chronologie et qui se passe pas dans le même monde au passage. Donc ça donne des recueils où sur une page, vous découvrez que Tony Stark est mort, vous tournez la page et il est vivant avec un autre dessinateur et on ne comprend absolument rien, c'est du grand n'importe quoi. On va faire une deuxième pause rapide et puis ce sera l'heure de conclure ce cercle de qui ou quoi pour l'année, le dernier cercle de qui ou quoi pour l'année 2018.
Sur le bord de l'autoroute, des oracles sur la plage en plein mois d'août, des milliers d'ados en crise identitaire, en perte de confiance sans aucun repère. Fugueux de 13 ans en quête de sensations, éducateurs pour répondre à tes questions, des centres de formation pour les DJ, musique techno et drogue pour t'évader, une culture en marche pour te démarquer, quelques grammes d'héros pour te réchauffer. Un regard neuf sur la société, un regard neuf sur la sexualité. Quelle solution au problème des jeunes d'aujourd'hui? Locaux municipaux pour concerts gratuits, ateliers bio animés par des hippies, des anciens toxicos animés des bars, des maisons d'idoles font du bénévolat, des cours de judo gratuits dans ton quartier, dans ton Walkman, le dernier labillé. Quelle solution au problème?
pour ceux dont personne ne veut plus. Un abri pour ceux qui galèrent dans la rue. Un regard neuf sur la société. Un regard neuf sur la sexualité.
Quelle solution au problème des jeunes d'aujourd'hui? Il y a des lieux associatifs. Il y a des lieux associatifs pour les jeunes. Il y a des lieux associatifs pour les jeunes. Il y a des lieux associatifs. Il y a des lieux associatifs pour les jeunes. Il y a des lieux associatifs. Il y a des lieux associatifs pour les jeunes.
C'était Cobra avec le morceau des lieux associatifs pour les jeunes. On est de retour sur Radio Audio dans Qui ou Quoi pour la dernière partie de l'émission où on vous parle de livres. Alors, l'émission est en train un peu de dépasser. Alors, comme d'habitude, on a commencé un peu en retard. Et on va dépasser. Donc voilà. Alors il faut que vous sachiez quand même que à Radio Audio, il y a des petits soucis techniques. L'ordinateur qui enregistre les émissions ne fonctionne pas. Donc c'est un peu pour ça aussi que l'émission a commencé en retard cette fois. On a essayé de trouver une solution pour quand même enregistrer l'émission pour vous la proposer en podcast par la suite. Cette dernière émission, on va la mener un peu tambour battant avec Vincent. On va essayer de vous faire des petites recommandations en lien avec ces comics. On va parler de comics, on va pas vous les détailler, mais lire tous ces comics, ça nous a fait penser à d'autres. Et donc, on va quand même essayer de vous les évoquer ici. Vous pourrez les trouver dans toutes les bonnes crèmeries, dans toutes les bonnes librairies, les bonnes librairies BD de synthé, certaines bibliothèques, etc., etc. Vincent, tu commences?
Oui, bah, si tu veux, Axel. Bon, moi je reste. Après, j'ai pas des nouvelles références à proposer, mais j'invite les auditeurs, les auditrices qui ne connaîtraient pas à découvrir Chris Claremont et John Byrne. Ça a été réédité par Panini.
C'est quel super-héros?
Alors là, c'est l'équipe des X-Men, en fait. C'est au début des années 80. Ils renouvellent, en fait. Surtout, ils renouvellent l'équipe des X-Men. Et ça, c'est ce qui est bien. D'ailleurs, c'est qu'ils font pas abstraction de l'ancienne équipe. Mmh. Ils incorporent, ils mélangent, en fait, les anciens et les nouveaux.
D'accord.
Sinon, incontournable. Je c'est évidemment à découvrir Alan Moore, les Watchmen.
Oui, oui, oui.
Je pense qu'on est d'accord.
Sur un autre créneau plus politique.
C'est un créneau plus politique.
Ouais.
Et j'ai parlé beaucoup de Stan Lee et Jack Kirby. Là encore, je suis passé il n'y a pas très longtemps à la librairie Forum. J'ai vu qu'il y avait une énorme réédition. Avec des super dessins de Kirby, c'est toujours des planches exceptionnelles, spectaculaires. Donc, de toute façon, c'est régulièrement réédité. Et j'invite celles et ceux qui ne connaissent pas eh ben, à se plonger
dedans.
Voilà.
Moi, de mon côté, toujours sur Alan Moore, mais un peu moins mesuré, mais c'est pour voir justement la différence entre un Mark Millar et un autre qui serait peut-être moins cynique, moins vide en fait. Ce serait justement encore Alan Moore avec non pas les Watchmen, mais avec la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui reprend en fait des figures mythiques du fantastique, genre il y a Sherlock Holmes, il y a la femme de Dracula, je me souviens plus son nom, il y a l'homme invisible, il y a plusieurs personnages comme ça qui font partie de l'imaginaire populaire, et en fait il les prend tous ensemble, il fait un énorme crossover et ils vont se battre contre l'ennemi séculaire de contre Moriarty, l'ennemi de Sherlock Holmes. Donc ça, bon, moi je suis pas un super fan parce que je trouve que c'est assez bavard, mais en tout cas on peut pas nier que là il y a du fond et qu'en fait il utilise plein de mythologies sans s'en foutre et pour en construire une nouvelle, et c'est assez fort en fait. Mais bon, moi je suis pas fan du dessin et je suis pas forcément fan d'Alan Moore, mais je voulais quand même l'évoquer ici parce que c'est quand même le pendant de Mark Millar un petit peu. C'est ce que Mark Millar aurait rêvé d'être, mais bon, bah tant pis quoi. Ensuite il y a une autre BD qui s'appelle Powers, un comics de super-héros scénarisé par Bendis, qui est un autre scénariste de contemporain de Mark Millar et qui est connu aussi. Et lui, en fait, Powers, c'est dans un monde où en fait il y a plein de super-héros. On va suivre des détectives parce que il y a une super-héroïne qui s'est faite tuer. Et en fait, ils vont mener l'enquête pour essayer de savoir qui l'a tuée. Et ça, c'est vraiment pas mal en mode polar avec des super-héros et un dessin franchement différent, beaucoup plus marqué, un peu moins passe-partout, moins réaliste, qui est vraiment sympa. Voilà, tout ça. Bon, après, on pourrait rester toute la nuit, on pourrait s'échanger des noms de comics toute la nuit. Mais bon, là n'est pas le propos. Donc, on va clore cette émission, si tu veux bien, Vincent.
Oui, Axel, et puis on va souhaiter des bonnes fêtes hein, quand même aux gens qui nous écoutent.
Une bonne année en tout cas.
Une bonne année, et puis...
On va se retrouver, moi dans 2 semaines, toi dans 1 mois, pour un autre cercle ou sur Radio Duo, en espérant que l'ordinateur marchera. Et puis, cette fois, ce sera à toi de choisir. Donc... En attendant, bonne année à tous. Et puis, dans la semaine prochaine, ce sera Radio Gaga à notre place. Et puis, donc, dans 2 semaines, on retrouve qui ou quoi. Mais tout ça en 2019. À bientôt.
À bientôt.